La question des migrants est souvent cachée, elle est souvent dans l'ombre. Ce sont des gens qu'on ne voit pas, et donc on avait envie d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Ces personnes jeunes, la plus jeune que j'ai rencontrée avait 11 ans seulement, donc un enfant, et la majorité, c'est entre 15 et 25 ans, principalement des hommes, une minorité de femmes qui tentent tout de même cette aventure dangereuse, et qui viennent d'Amérique centrale, le pays qui expulse le plus de migrants étant le Honduras. C'est 80% à peu près des migrants qui voyagent vers les États-Unis qui viennent du Honduras.
Donc ces migrants en quête d'une vie meilleure traversent le Mexique pour se rendre en espérant se rendre aux États-Unis et là ils rencontrent des situations extrêmement difficiles et une violence qui se manifeste à plusieurs niveaux.
Oui, alors ils voyagent principalement en train, des trains de marchandises où les migrants sont perchés sur les toits, sont agrippés autant qu'ils le peuvent entre deux wagons. Donc déjà, rien que le fait de voyager dans ces conditions représente un danger extrême. L'autre danger, ce sont les gardes de sécurité qui font la loi et l'ordre sur ces trains. Il y a un racket organisé des migrants qui doivent payer certaines sommes d'argent s'ils veulent rester sur les trains. Et il y a enfin les groupes de criminels organisés, principalement d'Amérique centrale et de trafic de drogue, qui ont trouvé depuis quelques années dans les migrants une nouvelle source de revenus. Donc c'est encore une fois le racket, mais c'est aussi le viol des femmes presque systématique. Et enfin, c'est l'enlèvement des migrants, donc qui sont séquestrés pour le travail forcé, pour les réseaux de prostitution, ou encore une fois pour des chantages avec leur famille, pour l'obtention de rançons. C'est soit la rançon est payée, soit c'est la mort.
Une législation donc a été mise en place par le gouvernement mexicain pour protéger ces migrants.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu une amélioration?
Il y a une certaine amélioration dans le sens que l'aide fournie aux migrants n'est plus considérée comme criminelle. Mais bon, c'est une législation qui vient de passer et elle n'est pas encore complètement appliquée. Il faut savoir aussi que certaines autorités mexicaines, donc des forces de police, des forces de migration, participent elles-mêmes à la violence contre les migrants, au racket des migrants. Donc, avant de pouvoir dire que cette nouvelle loi soit appliquée, soit respectée par les agents de l'État, il y a encore un long chemin à faire. Et cela vaut également pour la protection des maisons de migrants qui sont gérées par Caritas ou par la pastorale sociale de mobilité humaine, qui est l'autre partie de l'Église qui gère cette question des migrants au Mexique, qui reçoivent perpétuellement des menaces, des intimidations, et certaines ont même des mesures de protection qui ont été demandées par la Cour interaméricaine des droits de l'homme et qui ne sont pas mises en place par les autorités. Donc il y a encore un réel problème au niveau de l'implication des autorités dans la protection des migrants et dans la protection des personnes qui travaillent à les protéger et à les aider.
Donc les migrants victimes d'une violence à différents niveaux, violence de la part de la police, de la part des narcotrafiquants, la population mexicaine, elle, comment réagit-elle face à ces migrants? Est-ce qu'il y a une certaine forme de racisme?
Il y en a sûrement, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu plutôt une très grande solidarité parce que beaucoup des Mexicains émigrent vers les États-Unis. Donc, les familles, les populations connaissent ce phénomène de migration, connaissent les dangers du voyage, connaissent également les difficultés une fois arrivés de l'autre côté de la frontière. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir un certain rejet, mais j'ai été témoin plus de la solidarité. Un exemple, à Cordoba, Veracruz, où j'ai été voir un groupe de femmes, une famille qui s'appelle Las Patronas, et qui, tous les jours, prépare des sacs de nourriture dans des petits sacs plastiques, et à chaque fois, deux, trois fois par jour, quand le train passe chargé de migrants, elles sont sur 1 km au bord de la voie à tendre leur sac de nourriture. Donc voilà le geste de solidarité. Et elle me disait, on a toutes un frère, un mari, un fils qui est parti vers les États-Unis. Donc pour nous, les migrants d'Amérique centrale sont comme nos frères, et il faut les aider, il faut avoir cette solidarité.
Quelles sont les actions menées par le réseau Caritas pour venir en aide à ces migrants?
Donc c'est Caritas et la pastorale sociale des migrants. Il y a différents niveaux. Il y a l'aide directe. Il y a un réseau de 54 maisons d'accueil de migrants à travers le Mexique qui leur fournit un toit, un lit pour dormir, qui leur fournit de la nourriture, qui leur fournit des habits également, des soins médicaux. Il y a un travail également avec la commission de défense des droits de l'homme mexicaine pour dénoncer les cas d'abus. Après, il y a un travail de sensibilisation à travers les églises par rapport aux conditions que vivent les migrants. Et il y a également, ça c'est nouveau, ils sont en train de mettre en place un travail entre les pays d'origine des migrants, le Mexique, pays de transit, et également les États-Unis. Donc les conférences épiscopales essayent vraiment d'affronter le problème dans sa globalité, autant en répondant aux questions d'extrême pauvreté ou de violence qui sont les motifs d'expulsion de ces migrants de leur pays d'origine, que de l'accueil, du respect, de la sensibilisation aux conditions de vie dans le pays d'arrivée, les États-Unis.
Benoît XVI va se rendre donc au Mexique à la fin du mois. Ces migrants, ces personnes qui travaillent auprès des migrants, qu'attendent-elles de ce déplacement, de cette visite de Benoît XVI ?
Je ne sais pas s'il y a une attente en tant que telle de la visite du Saint-Père. Je pense par contre que tous les hommes et les femmes qui travaillent au service de l'autre ont une attente de confirmation pastorale dans les actions qui sont réalisées. Et c'est sûr qu'un voyage du Saint-Père dans leur pays représente aussi une occasion pour eux d'avoir une plus grande visibilité sur les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et il y a une espérance que ces problèmes soient mentionnés et soient pris en compte dans les messages qui seront livrés par le Saint-Père.